La Voix des songes. Samuel Cohen Salmon.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des songes. Comme convenu, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la clé des songes d'Artémidore. Pour commencer, qu'est-ce qu'une clé des songes ? Cela peut sembler un peu simpliste, mais une clé des songes, ce n'est pas une clé qui permet d'ouvrir une porte réelle. Une clé des songes, c'est un livre, censé nous permettre d'interpréter les rêves, donc une porte symbolique. Mais alors, comment un livre, matière inerte, peut-il interpréter un rêve ? Pour qu'une clé des songes existe, il faut quand même au préalable avoir une certaine conception des rêves. En effet, pour qu'une clé des songes ait une quelconque utilité, il faut considérer les rêves comme des écrits chiffrés, où chaque signe, symbole qui compose le rêve, est traduit par un signe au sens connu. La clé des songes est là pour rendre compte du lien fixe entre les symboles de nos rêves et le sens qui s'y rapporte. Pour le dire autrement, une clé des songes sert à déchiffrer un rêve. Prenons l'exemple, dans la clé des songes d'Artémidore, du sanglier. Imaginons que dans votre rêve apparaît un sanglier. Vous ouvrez alors le livre, vous allez au chapitre consacré à la chasse et aux animaux, section quadrupède, section, sous-section même, animaux sauvages, où se trouve, entre autres, consigné l'interprétation liée au sanglier. Voici ce qui est écrit. Le sanglier indique, pour les voyageurs ou navigateurs, une tempête violente. Pour les gens en procès, un adversaire à la fois puissant, dur et brutal, qui souvent use d'une voix répugnante. Pour les cultivateurs, stérilité parce qu'il endommage les plants. Et pour le marié, que la femme n'est ni bienveillante ni gentille. Or, il n'y a rien d'étonnant à ce que le sanglier désigne aussi une femme, car même si c'est de mauvais goût, encore est-il qu'on pourra le dire pour mettre en évidence des choses que j'ai souvent observées. L'animal est nommé porc sauvage, et c'est à bon droit que ce mot désigne une femme. Je précise que j'ai sciemment choisi cet exemple à un moment où l'expression « balance ton porc » se retrouve un peu partout sur les réseaux sociaux et les médias pour dénoncer les actes répréhensibles de certains hommes envers les femmes. Si de nos jours, les porcs représentent les hommes, à l'époque d'Artémidore, le deuxième siècle de notre ère, les porcs représenter les femmes. Il faut donc toujours tenir compte du contexte historique et culturel de l'objet auquel on s'intéresse et donc le manier avec prudence et précaution. Bien que plusieurs interprétations soient données en fonction du contexte du rêve, l'interprétation du symbole sanglier dans un rêve reste la même pour tout le monde. C'est l'une des caractéristiques des clés des songes. La fixité du lien entre le signe et le sens, ce qui en fait l'une des principales limites. L'autre caractéristique centrale d'une clé des songes est qu'elle a vocation à prévoir l'avenir. Et les clés des songes actuelles, car il en existe encore de nombreuses, le plus souvent sous le vocable de dictionnaire des rêves, ça fait plus sérieux. Donc les clés des songes procèdent toujours de la sorte. Si vous rêvez d'une telle chose, cela annonce ceci, ou encore cela, selon le rêveur et le contexte du rêve, avec toujours quelque chose de plus ou moins positif. L'interprétation des rêves, à l'aide d'une clé des songes, n'a donc pas de visée psychothérapeutique, et encore moins de visée analytique. Alors pourquoi s'y intéresser ? En particulier, pourquoi s'intéresser à la clé des songes d'Artémidore ? On peut, par exemple, s'y intéresser tel que le fait le groupe Artémidore, basé à l'université Paul Valéry, et mondialement connu pour ses travaux sur la clé des songes d'Artémidore. Je leur rends ici un petit hommage rapide. À la base, ce groupe est constitué de philologues, c'est-à-dire de spécialistes de langues anciennes, en l'occurrence le grec ancien, et qui se sont saisis du traité sur les rêves d'Artémidore pour en faire une traduction la plus fiable possible. Donc, au départ, le texte dense d'Artemidore leur a servi de matériau pour exercer leur magistère. Mais leurs travaux ne se limitent pas à une simple traduction du texte original. Pour être au plus près du texte de base, leur travail s'est enrichi d'une approche pluridisciplinaire afin de comprendre les enjeux culturels, religieux, sociaux, économiques de l'époque d'Artemidore, afin d'être le plus juste dans leur traduction. C'est ce que l'on qualifie d'approche synchronique. C'est-à-dire que vous avez un objet de recherche, et pour mieux le comprendre, vous étudiez le contexte dans lequel s'inscrit l'objet de votre recherche. Dans le cas d'Artemidore, le monde méditerranéen de culture grecque au IIe siècle de notre ère. Mais encore une fois, les travaux du groupe Artemidore n'ont aucune visée psychothérapeutique. En fait, si je m'intéresse à la clé des songes d'Artemidore, en tant que psychothérapeute et en tant qu'analyste de rêve, ce n'est pas dans une perspective synchronique, mais plutôt diachronique. Encore un mot compliqué pour dire quelque chose de très simple. L'approche diachronique s'intéresse à un phénomène dans la manière dont il s'inscrit à travers le temps. C'est l'étymologie de diachronique, à travers le temps. Pour le dire autrement, en quoi la clé des songes d'Artemidore s'inscrit dans la tradition onirocritique qui est la nôtre? Tout comme j'ai tenté de le faire lors des précédentes émissions avec le traité sur les rêves d'Hippocrate. Mais pour être encore plus juste, il faudrait l'énoncer ainsi. En quoi la clé des songes d'Artemidore est les piliers de notre tradition onirocritique? Petite anecdote pour vous montrer l'importance de la clé des songes d'Artemidore dans notre tradition onirocritique occidentale. Lorsque Sigmund Freud publie l'interprétation des rêves en 1899, une partie importante de son introduction est consacrée aux connaissances historiques de son époque concernant l'interprétation des rêves. Et dans ce domaine, la référence la plus ancienne est justement Artemidore, soit le IIe siècle de notre ère. Comme si pour Freud, tout avait commencé avec Artemidore au IIe siècle. Alors c'est vrai que les connaissances de son époque n'étaient pas aussi riches qu'aujourd'hui, mais quand même, Freud, en tant que médecin, connaissait également le traité sur les rêves d'Hippocrate qui lui date du 5e-4e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est bien un choix délibéré de Freud de s'inscrire dans la tradition onirocritique qui considère Artemidore comme le plus grand interprète des rêves de l'Antiquité. À noter que le véritable titre de la clé des songes d'Artemidore est Oneirocritica, qui signifie littéralement l'interprétation des rêves en grec. Titre, justement, de l'ouvrage de Freud, et il a reconnu qu'il l'avait fait exprès. Pourquoi Artemidore jouit-il d'un tel prestige? L'une des premières raisons est que son traité sur l'interprétation des rêves a été conservé dans son intégralité au cours de l'histoire. Il n'a jamais été perdu, et c'est le seul. Dans son ouvrage, Artemidore rend hommage ou critique plusieurs interprètes de rêves de son temps, et qui semblent avoir joui d'une certaine renommée, mais dont aujourd'hui nous n'avons plus aucune trace. Vous admettrez donc que c'est toujours plus facile d'être le meilleur quand on est le seul à concourir. Il faut dire aussi que jusqu'au milieu du XXe siècle, on était persuadé que les Grecs étaient les inventeurs des clés des songes et que finalement Artemidore, au IIe siècle, incarnait l'aboutissement inégalé de cet art. Sauf que le développement de l'archéologie au cours du siècle dernier a démontré de manière claire que l'on s'était fourvoyé pendant des siècles. Il existait déjà des clés des songes en Égypte avant même que la Grèce n'existe politiquement et culturellement. Mais surtout, les plus anciennes clés des songes ont été retrouvées en Mésopotamie, qui, dans l'état actuel de nos connaissances, semble être le berceau des clés des songes. J'ai d'ailleurs traité ce sujet, à travers plusieurs émissions, lors de la saison précédente. Vous pouvez les réécouter en libre accès sur radiofmplus.org, à la rubrique La Voix des songes. mais j'aimerais quand même aujourd'hui y revenir un instant pour rendre hommage à ces interprètes de rêves géniaux, mais aussi pour mieux mettre en évidence la révolution conceptuelle apportée par Artemidore à travers sa propre clé des songes. Le plus vieux traité sur les rêves retrouvé à ce jour, et je ne parle pas encore de clé des songes, provient de Mésopotamie et daterait du milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Ce livre des rêves inaugure une tradition onirocritique qui va se transmettre à travers les siècles et dont on ne s'est jamais départi. Une partition, justement, en deux grands groupes de rêves aux destinées interprétatives différentes. À l'époque, on distinguait les rêves selon leur origine divine ou démoniaque. Les rêves divins annoncent notre futur, car les dieux ne se déplacent pas en rêve jusqu'à nous pour nous révéler ce que l'on sait déjà. Logique imparable. Et les rêves d'origine divine ne sont pas interprétés, car on ne questionne pas la parole des dieux. Les dieux ne parlent pas dans un langage obscur. Logique, à nouveau, imparable. Donc, ce qui est dit est ce qui est. Quant aux autres rêves, les rêves du quotidien, ils sont tous considérés, à l'époque, comme des rêves d'origine démoniaque. Il faut alors se protéger de leurs effets par des rites propitiatoires. Ces rêves dits démoniaques sont en fait des rêves du quotidien et ne sont pas interprétés. Au final, à cette époque, qui marque la naissance de notre tradition d'interprétation des rêves, eh bien les rêves n'étaient jamais interprétés. Quel beau paradoxe. Il faut attendre en réalité le 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, toujours en Mésopotamie, pour qu'apparaissent les premières clés des songes. Ce qui a changé au cours de ces quelques siècles d'intervalle, c'est la considération des anciens pour les rêves du quotidien. Les rêves divins continuent à être traités de la même manière. Ils ne sont pas interprétés et leur message est pris à la lettre. Cependant, des rêves théophaniques, c'est-à-dire des rêves dans lesquels se manifeste un dieu, sont assez rares, même à l'époque. Et les demandes divinatoires à partir des rêves s'étant grandement démocratisées, il fallait bien apporter des réponses. C'est pourquoi les interprètes de rêves de l'époque sont allés puiser dans le réservoir des rêves du quotidien pour désormais prédire l'avenir. Pour cela, l'origine démoniaque de ces rêves du quotidien a eu un effet intéressant. Si la parole des dieux est une parole qui dit la vérité, la parole des démons, quant à elle, est une parole qui trompe. Les démons usent d'un langage obscur, eux. Donc les rêves du quotidien, d'origine démoniaque, sont des rêves trompeurs. Non pas qu'ils ne disent pas la vérité sur notre avenir, mais cette vérité est masquée, obscurcie. Et pour démasquer cette vérité cachée dans nos rêves du quotidien, eh bien les rites propitiatoires ne sont plus de qu'une utilité. Pour accéder à cette vérité, il faut craquer le code de ces rêves obscurs. Voilà, historiquement, pourquoi les peuples de la Mésopotamie ont été les premiers à développer des clés des songes permettant de déchiffrer les rêves symboliques. Cette tradition des clés des songes pour déchiffrer les rêves symboliques s'est transmise notamment à l'Égypte, mais aussi et surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, à la Grèce. En Grèce, justement, cette tradition se retrouve principalement, mais pas uniquement, à travers le culte du dieu Asclépios. Je ne reviendrai pas sur le dieu de la médecine, dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises lors de précédentes émissions. Il est évident que si on s'intéresse à l'interprétation des rêves, on est obligé d'en passer par le culte d'Asclépios. Gardez quand même à l'esprit que le culte d'Asclépios est le plus répandu à l'époque gréco-romaine jusqu'à l'émergence du christianisme. C'est le culte le plus populaire de l'époque. Car c'est un culte qui soigne les malades. Et c'est un culte qui se propose de guérir grâce aux rêves à travers le rite dit d'incubation qui consiste en fait en une sorte de conditionnement physique et psychique afin d'obtenir des rêves théophaniques miraculeux. Sauf que les rêves théophaniques sont assez rares. Donc si au moins on arrivait à obtenir un rêve symbolique, on s'empressait d'aller le raconter à un préposé à l'interprétation. Dans ce cadre-là, les clés des songes n'étaient utilisées qu'en dernier recours pour confirmer une interprétation pour les cas les plus compliqués. À travers le culte d'Asclépios, les Grecs ont maintenu et reproduit une dualité entre les rêves. D'un côté, les rêves divinatoires, dignes d'intérêt, qu'ils soient divins ou symboliques, et d'un autre côté, les rêves non divinatoires, donc sans intérêt. Sans intérêt pour le monde religieux, qui domine la société de l'époque, mais pas sans intérêt pour tout le monde. C'est ainsi qu'un personnage comme Hippocrate a pu émerger. De ces rêves que les prêtres d'Asclépios avaient laissés de côté, Hippocrate en a fait son repas. Et c'est ce que nous avons vu lors de la précédente émission. Hippocrate reconnaissait cette partition entre les rêves. D'un côté, les rêves divinatoires, envoyés par les dieux, étaient de la responsabilité des prêtres, des devins, des voyants. Par contre, les autres rêves n'étaient pas sans intérêt, selon lui. Hippocrate considérait que ces rêves étaient envoyés par le corps, qu'ils avaient une origine somatique. Et en les interprétant correctement, c'est tout le but de son traité sur les rêves, on pourrait soigner les maladies, mais plus important encore, les prévenir. Au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate a inauguré le concept de rêve matérialiste à visée médicale. Alors, qu'apporte Artémidore au 2e siècle de notre ère avec sa clé des songes ? Lui aussi, d'emblée, dès la première ligne, il fait sienne cette dualité entre les rêves non divinatoires et les rêves divinatoires, qu'il appelle songe ou onéiros en grec. Voici ce qu'il dit. Les songes diffèrent du rêve par ceci, qu'il arrive à l'un de signifier l'avenir, à l'autre la réalité présente. Jusque-là, rien de bien novateur, même pour l'époque. Il commence son ouvrage sur des bases partagées par tous. Par contre, là où il est déjà révolutionnaire, c'est dans l'exemple qu'il évoque pour illustrer son propos liminaire. Et cet exemple est d'autant plus important qu'il va nous servir pour les exemples cliniques que nous découvrirons prochainement. L'exemple est fort simple. Que dire à l'amoureux qui rêve de l'être aimé ? Un tel rêve doit-il être considéré comme divinatoire ou non ? Pour Artémidore, un tel rêve n'est pas un rêve prémonitoire, quand bien même il finit par s'accomplir, car il ne fait que refléter la réalité psychique du rêveur, au même titre que quelqu'un qui a soif rêve d'eau, ou quelqu'un qui a faim rêve de nourriture. Pour le dire avec une terminologie contemporaine, Artémidore inaugure ici le concept de rêve-désir, concept que Freud, lecteur averti d'Artémidore, reprendra et développera. Alors pourquoi Artémidore n'a pas développé lui-même ce concept de rêve-désir à son époque ? Eh bien tout simplement parce que ça ne l'intéressait pas. Artémidore s'intéressait en fait aux songes, c'est-à-dire aux rêves divinatoires. Et sa clé des songes a été conçue dans le but d'interpréter de tels rêves. Rien de bien nouveau a priori. Sauf qu'Artémidore est un laïc. Artémidore n'est pas un prêtre, un devin ou un voyant. Artémidore est un homme de science pour son époque. Et la clé des songes qu'il a rédigée reflète parfaitement son esprit scientifique et laïque. C'est précisément ce que nous découvrirons lors de la prochaine émission. Comme d'habitude, vous pourrez réécouter cette émission dès ce soir à 21h sur 91 FM ou à n'importe quel moment en podcast sur radiofmplus.org à la rubrique La Voix des Songes. Pour celles et ceux qui voudraient participer à l'émission, vous pouvez nous contacter au standard de la radio au 04 67 03 28 39 ou via l'adresse mail analysederêves@radiofmplus.org. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines et d'ici là, faites de beaux rêves.